Seigneur, ta parole nous dit de te louer avec les instruments. Seigneur, tu nous fais une grâce particulière ce matin de pouvoir le faire d'une manière différente, renouvelée. Et Seigneur, veuille bénir nos amis qui sont là et qui ont fait le voyage, Seigneur, pour nous accompagner ce matin. Seigneur, veuille nous bénir tous à l'écoute de ta parole et à ce qu'elle nous souligne et ce qu'elle implique. Amen. Alors actuellement, là je parle aussi un petit peu pour nos invités. Hein. Actuellement, nous poursuivons la lecture de l'Épître aux Hébreux. Hein. Et on en est au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Et ce chapitre 11 est très connu parce qu'il cite des personnes ordinaires qui ont eu une foi en éternel, une foi remarquable. Et on est invité à les imiter. Et parmi ces personnes, comme Abraham, comme d'autres personnes, il y a plusieurs juges de la Bible qui sont cités. Et parmi ces personnes, il y a le juge Jephté qui est nommé. Et donc, j'ai profité de l'occasion que certains juges soient nommés, comme Gédéon, comme Barak, comme Samson, pour s'arrêter et puis peut-être mettre un peu le focus sur ces personnages que l'on connaît moins bien. Et je vais lire le texte de l'Épître aux Hébreux qui nous parle justement de ces personnes. Donc on est au chapitre 11, au verset 32. Donc c'est la page 1373 ou 73 en français, mais en alsacien, je ne sais pas comment on dit. Hein. Oula, alors là je ne pourrais pas le répéter. Mais toujours c'est Hébreux 11, verset 32. Que dirais-je encore ? Le temps me manquerait en effet pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel et des autres prophètes. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule de lion, éteint la puissance du feu, échappé au tranchant de l'épée, repris des forces après une maladie, été vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Donc, je vais m'arrêter ce matin sur Jephté. Jephté est un personnage pas très très bien connu. Beaucoup de personnes pensent que c'est un peu un fou furieux qui aurait brûlé sa fille suite à un vœu inconsidéré. Mais ça ne colle pas avec ce que l'on vient de lire. L'Épître aux Hébreux nous le cite en exemple. Je rappelle, et je le rappelle toujours, les textes de l'Ancien Testament doivent toujours être compris à la lumière des épîtres et des paroles de Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus a tout accompli. Donc, à la suite, on peut mieux comprendre ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Donc, si l'épître nous dit qu'il est un exemple, à nous de regarder en quoi il est un exemple. Et ne pas se fier aux rumeurs qui le classerait comme quelqu'un de peu recommandable. Alors, pour pas être omnubilé par ce sujet du vœu de Jephté, je vous propose qu'on lise en premier ce texte qui pose question. Mais en fait, ce que l'on va voir, c'est que Jephté démontre une foi hors du commun quand tout le monde n'en veut pas. Alors, la période des juges, dont on sera juge chapitre 10, la page 302 dans la Bible blanche. Quelques repères par rapport à la période des juges. Alors, cette période des juges se trouve entre la période de la conquête de Canaan avec Josué et la période qui va suivre avec les rois, Saül, David, Salomon. Hein ? Donc, c'est la période qui entre. C'est une période qui est un peu troublée, pas terrible du tout même, on pourrait dire. Suite aux exploits sous la conduite de Josué, normalement, les tribus qui s'étaient implantées auraient dû terminer la conquête. Mais au-delà de cela, elles ont préféré l'assimilation avec les peuplades qui étaient là et sont tombées dans l'idolâtrie plutôt que de s'attacher à l'Éternel. Alors l'Éternel, qui avait fait un contrat avec le peuple, applique les termes du contrat. Vous m'adorez, vous m'obéissez, bénédiction. Vous m'oubliez, eh bien, vous allez avoir le jugement qui va arriver par les peuplades qui vous entourent, qui vont dominer sur vous. Et s'ensuit un cycle qui va durer 400-450 ans, où se répète toujours le même schéma dans toutes les régions d'Israël. L'idolâtrie conduit au jugement, à la domination des peuplades qui sont autour et qui sont présentes. Au bout d'un moment, Israël se souvient que ben, ils étaient le peuple de Dieu, donc ils crient à l'Éternel, et l'Éternel va susciter un juge, force de libérateur, mais en même temps qui conduit à un retour à l'Éternel, et c'est lui qui, avec l'aide de l'Éternel, procure la délivrance de cette oppression. Et s'ensuit en général une période de paix durant la vie du juge. Le juge meurt et le peuple retombe dans ses travers. Voilà un petit peu le contexte dans lequel le récit de Jephthé est ici. Donc, juge, alors le début de l'histoire de Jephthé, c'est Juge chapitre 10, mais le passage qu'on va lire, c'est au chapitre 11. Page 304, chapitre 11, verset 29. Juge 11, 11, verset 29. L'esprit de l'Éternel, l'esprit de l'Éternel, reposa sur Jephthé, qui traversa Galaad et Manassé, puis passa à Mitspé et de Galaad. De là, il marcha contre les Ammonites. Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Il dit: Si tu livres les Ammonites entre mes mains, toute personne qui, à mon heureux retour de chez les Ammonites, sortira de chez moi pour venir à ma rencontre, appartiendra à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. Jephthé marcha contre les Ammonites, et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur infligea une très grande défaite depuis Aroer jusqu'à Minni, espace qui comptait 20 villes jusqu'à Abel-Kéramine. Les Ammonites furent humiliés devant les Israélites. Jephthé retourna chez lui, à Mitspa, et voici que sa fille sortit à sa rencontre avec des tambourins et des danses. C'était son seul enfant. Il n'avait pas de fils et pas d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit: Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu fais partie de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne peux pas revenir en arrière. Elle dit: Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi conformément à tes paroles. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des Ammonites. Elle dit encore à son père: Accorde-moi seulement ceci. Laisse-moi partir pendant 2 mois. Je m'en irai, je me rendrai dans la montagne et j'y pleurerai ma virginité avec mes compagnes. Jephthé répondit: Vas-y! Et il la laissa partir pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes et pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait pas eu de relation avec un homme. Deux évidences dans ce texte. Il est évident que contrairement aux autres juges, Jephthé est un juge qui n'aura pas de descendance. Et bien souvent, les retombées de la victoire des juges se manifestaient par une heureuse descendance. Et ici, elle est amputée et il n'aura pas, comme tous les autres juges, une grosse descendance. Et ce sentiment est renforcé quand vous regardez au chapitre 12. Il y a plusieurs juges qui sont nommés, que l'on connaît très peu, Ibsan, Abdon, qui, on sait qu'ils ont été juges, mais la seule chose que l'on sait, c'est qu'ils ont eu beaucoup d'enfants. Le premier a eu 30 fils, et l'autre 40 fils et 30 petits-fils. Donc ce qui met bien en opposition le fait que Jephthé n'a pas eu de descendance, et que habituellement les juges avaient une nombreuse descendance. Donc ça, c'est la première remarque que l'on peut faire. Deuxième chose, il est évident que Jephthé n'a pas brûlé sa fille. Plusieurs choses nous montrent clairement qu'elle n'a pas été brûlée. Le cadre littéraire dans lequel est prononcé le vœu est imprégné de l'idée de plaire à l'Éternel. Et toute la parole de Dieu avant montre que ces pratiques de sacrifice d'êtres humains étaient une abomination. Et c'est d'ailleurs pour ça que le peuple devait prendre Canaan en partie. Donc ça ne collerait pas. Deuxièmement, Dieu n'aurait jamais donné la victoire à quelqu'un qui a fait un serment pour quelque chose qui réprouve. Donc s'il fait le serment juste avant, l'Éternel n'aurait pas donné la victoire. Je me suis arrêté dans la lecture volontairement pour dire que c'est l'Éternel qui a donné la victoire à Jephté. Autre chose, la fille de Jephté ne va pas pleurer 2 mois sur sa mort, mais sur sa virginité. Hein? Pas le fait qu'elle soit tuée. Un peu plus loin, d'ailleurs, dans le texte, on voit que suite à cela, il y a une fête en Israël qui s'est perpétuée. Jamais une fête en Israël aurait été célébrée et perpétuée si ça avait été sur quelque chose qui avait été abominable. Mais, et d'ailleurs, un peu plus loin, quand on lit la Bible, on voit que Saül aussi, une fois, avait fait un serment comme ça, et son fils Jonathan l'avait était allé outre. Ils avaient remporté la victoire, et son père était prêt à tuer Jonathan. Et on voit tout le peuple qui dit « Mais oh, arrête cette bêtise !» Donc, certainement que là aussi, il y aurait eu quelque chose de ce type. Mais l'argument final, implacable, c'est que notre épître aux Hébreux nous dit que Jephté est un exemple. Toujours regarder l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. Et donc, si Jephté était le symbole de quelqu'un qui a fait quelque chose d'abominable, jamais le Nouveau Testament nous l'aurait cité en exemple. Alors comment comprendre ce mot « holocauste » qui nous dérange dans ce texte ? Nous l'employons, nous, souvent, je pense, avec une origine grecque ou latine. Et en grec, effectivement, « holocauste » veut dire « tout brûler ». Et c'est certainement de là que vient l'emploi que nous, on en fait en pensant aux horreurs des camps de concentration. Mais l'original de ce texte n'est pas écrit en grec, il est écrit en hébreu. Et la racine de ce mot « holocauste », c'est l'idée de faire monter, Et d'ailleurs, les sacrifices du tabernacle ou du temple qui étaient des holocaustes, là vraiment des sacrifices, l'idée était de tout brûler, de tout consumer pour que monte une agréable odeur à l'Éternel. Vous vous souvenez de ces versets ? À chaque fois, c'est marqué « pour que monte une agréable odeur à l'Éternel ». Et la racine de ce mot, en hébreu, est plutôt sur l'idée de faire monter. Et c'est très certainement le sens qui est utilisé ici. Et ça dénote de l'immense foi, de l'immense piété de Jephté, avant même son combat, avant même d'avoir remporté quoi que ce soit. Il est prêt à donner à Dieu quelque chose qui va forcément lui coûter. Parce que c'est quelqu'un de sa maisonnée qui est l'objet de ce vœu. Forcément, c'est quelque chose qui va lui coûter beaucoup. On pense que la fille de Jephté était au service du tabernacle et donc qu'elle était exclusivement donc, à ce moment-là. Un petit peu comme Samuel, qu'on a un peu après, qui est consacré lui aussi au service du tabernacle et qui est lui aussi complètement dédié à cette tâche-là. Le coût pour Jephté de son adoration, de sa reconnaissance, c'est qu'il est un juge sans descendance. Et ça voulait dire beaucoup. Ça veut déjà dire pour nous beaucoup, mais à l'époque, ne pas avoir de descendance, c'était presque une honte. C'était même une honte. Mais là, c'est quelque chose de volontaire qui est offert à l'Éternel. Et c'est d'ailleurs peut-être pour cela qu'il y a cette fête qui a été instituée en souvenir de ce grand coup, de cette magnifique consécration qui a été donné. D'ailleurs, c'est des fois je dois donner des titres aux prédications et j'ai proposé Jephté, la foi quand tout le monde n'en veut pas. Et c'est un petit peu ça. Si j'espère que vous relirez l'histoire de Jephté quand vous serez rentré à la maison. Mais Jephté est quelqu'un qui est rejeté par sa famille, puis par les officiels du peuple d'Israël. Il doit vivre un petit peu à la manière de David quand Saül le poursuit et qu'il est avec une bande de personnes qui essaient de faire des coups pour survivre. Puis, finalement, les anciens d'Israël, comme ils sont confrontés à la domination des Ammonites, qui a duré 18 ans hein, quand même, c'est long 18 ans, hein. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils se souviennent que Jephté, lui, il est capable, donc ils vont aller chercher Jephté pour être à la tête des troupes d'Israël. Et là encore, on voit que Jephté a une attitude remarquable. Il ne va pas chercher la revanche, il ne va pas chercher la vengeance en disant « Ah, vous voyez Jephté, alors attendez, voilà maintenant, je voulais que je vienne. » Mais il assume cette responsabilité avec l'Éternel. Waouh! Et d'ailleurs, il est mis dans ses nouvelles fonctions en présence de l'Éternel. Aspect aussi remarquable à mettre à son crédit, de sa foi, on voit que c'est quelqu'un qui a une excellente connaissance de l'histoire d'Israël. Magnifique. Et cette connaissance, il va la mettre au service de la diplomatie. Ce n'est pas un va-t-en-guerre, on m'a dit d'y aller, j'y vais. D'abord, il tente de faire rentrer dans la raison les Ammonites pour leur dire, mais en fait, on était là et c'est chez nous ici. Mais ils ne veulent pas entendre raison et donc finalement, il va y avoir une bataille qui remportera. Mais on voit que c'est quelqu'un qui est porté vers la discussion. D'ailleurs, quand il va rentrer victorieux, il y a une des tribus d'Israël qui n'a pas voulu venir, qui ne s'est pas mouillée. Puis après, une fois qu'ils ont gagné, ils disent « Ah ouais, alors t'es pas venu nous chercher, t'es pas juste, et ainsi de suite. » Et là encore, Jephté va essayer d'apaiser, de tempérer, etc. Les autres ne veulent pas entendre raison, et malheureusement, il y aura une guerre fratricide entre les tribus. D'ailleurs, ça en dit long de l'état des tribus à l'époque. Elles étaient plus prêtes à s'entretuer entre elles plutôt que de conquérir ce que l'Éternel leur avait demandé de conquérir. Mais ils sont tellement assimilés, tellement obnubilés par leur confort, leur hédonisme, que finalement, c'est le peuple de Dieu qui se bataille les uns contre les autres plutôt que de partir justement sur ce que l'Éternel leur avait demandé de faire. Et au milieu de ça, on voit que Jephté a une foi ferme. Hein? Et malheureusement, même quand le peuple de Dieu ne représente plus l'Éternel, et dans un contexte d'opposition familiale, nationale, internationale, Jephté montre qu'il s'attend à l'Éternel. À la fois pour faire ses choix, à la fois pour la négociation, mais aussi pour agir. Jephté est une source de réflexion. La grandeur de sa foi est une source de réflexion. Alors, c'est bien, on lit un texte comme ça qui a 1000, entre 1400 hein, et 1000 ans. Mais si Dieu l'a consigné dans la Bible, c'est pour que ce texte me parle et pour que ce texte nous parle. Alors, on ne va pas consacrer nos enfants au service du tabernacle, parce qu'il n'y a plus de tabernacle, hein. Mais comment ce texte peut nous parler à nous maintenant? Je me suis posé la question. Est-ce que si dans notre propre famille, on nous fait un sale coup? Peut-être pas autant que Jephté, parce que Jephté, il s'est quand même fait éjecter de là où il vivait, déshérité. Même les autorités se sont mis derrière elle pour l'envoyer très très loin. Est-ce que si la situation s'inverse, on aura l'idée de revanche, on se montrera intraitable, ou est-ce que ce sera l'occasion d'exprimer notre foi? La grâce plutôt que l'expression de la rancœur. Et quand on nous a fait quelque chose, c'est pas facile d'exprimer l'expression de la foi. Oui, bien gentil Patrice, mais tu sais pas ce qu'on m'a fait. Non, peut-être pas. Mais je sais ce qu'on a fait à Jephté, c'était déjà pas mal. Hein. Et Jephté a agi avec l'idée de Dieu dans cette situation. Renié, déshérité, chassé, eh bien Dieu était présent quand la situation s'est inversée. Autre réflexion en regardant ce texte, les tribus d'Israël étaient plus soucieuses de défendre leur confort alors qu'elles auraient dû refléter l'Éternel face aux nations qu'elles devaient conquérir. Je me suis posé la question, alors, bien sûr, il n'est pas question qu'on doive conquérir des nations, mais est-ce qu'on est plus attaché à notre confort, à notre hédonisme, que de faire ce que Dieu nous demande? Est-ce que nous sommes tellement assimilés à ce qui nous entoure autour de nous qu'on est peut-être presque même prêt à s'opposer à ce que dit clairement la Bible? Je crois que ça se remarque facilement dans nos choix, dans nos discussions. Et plus que jamais, je crois que ces dernières années, on est confronté à des choses très progressistes. Hein? On entend beaucoup ce terme. En fait, de progressisme, c'est bien souvent juste un énième relan de choses qui sont ancestrales. Mais face à ces propositions, est-ce qu'on essaye de trouver quelque chose pour être en phase? Est-ce qu'on montre qu'on est assimilé? Ou est-ce qu'on montre qu'on s'appuie sur ce que l'Éternel nous dit? Jephté s'est opposé aux peuplades qui imposaient une vision que l'Éternel ne tolérait pas, mais aussi à la tribu d'Éphraïm, qui finalement, par frilosité, a préféré ne pas faire ce que Dieu demandait. Je suis posé vraiment cette question, est-ce que notre foi est balancée par toutes les tendances, ou est-ce qu'elle est ancrée réellement dans ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et des fois, je me pose la question si finalement, oui, on aime l'Éternel, si on ne serait pas là ce matin, on aime Dieu, mais est-ce que cette foi, elle ne fait pas partie de nos loisirs? C'est-à-dire que c'est une petite place parmi les nombreuses activités que l'on fait. Est-ce que j'ai une foi loisir ou est-ce que j'ai une foi centrale? Qui oriente ma vie, qui m'aide dans mes réflexions. Et Jephté, lui, a montré une foi centrale, un engagement qui coûte. Ah oui, je veux bien servir Dieu, mais j'ai pas mal d'autres choses à faire. Jephté, lui, il a montré une foi qui coûte, pas de descendance. Et notre foi, qu'est-ce qu'elle coûte? Pas tellement en termes de financière, mais en termes d'engagement. Qu'est-ce que ma foi coûte réellement? Et je crois que on pourra voir comme ça si ce qui fait notre confort, ce qui fait ce que l'on aime bien, ce qui fait qui nous sécurise, a plus de valeur que l'Éternel qui nous donne vie et qui nous donne le contexte dans lequel on peut s'exprimer. J'ai souvent cette image-là, quand j'étais en France, quand on allait à la poste, il y avait les petites boîtes de Madame Chirac, de Bernadette. Et dedans, on mettait les pièces jaunes, les pièces qui n'ont pas de valeur. C'était 1 centime, 2 centimes, 10 peut-être, il y avait 20 aussi. Et avec ces piécettes, eh bien, il y avait une belle action dans les hôpitaux et principalement auprès des enfants. Mais des fois, je me pose la question, est-ce qu'avec Dieu, je ne donne pas mes piécettes? Dieu fait avec. Mais Jephthé, lui, il a donné quelque chose qui coûte. Est-ce que on lui laisse ce qui nous reste en termes d'attention, de réflexion, d'orientation, de temps, de moyens? Jephthé, lui, a donné quelque chose qui était essentiel. Le nom de sa famille s'arrêtait là, à cette victoire. Je comprends mieux pourquoi maintenant l'Épître aux Hébreux nous a dit de réfléchir par rapport à Jephthé sur la valeur de notre foi. Est-ce que notre foi coûte? Ou est-ce que la foi est un divertissement spirituel juste? J'aimerais prier pour conclure. Seigneur, on a commencé ce moment, ce rassemblement, en te considérant comme grand, comme le Créateur, l'auteur de la vie. Et Seigneur, on le prend comme un prérequis et on t'oublie vite. Seigneur, merci pour le texte de ce matin. Aïe. Il nous dérange, il nous bouscule, tant dans la compréhension que dans quel écho ça doit avoir dans nos vies. Seigneur, on te demande vraiment de nous aider à y réfléchir. Quel est le prix de ma foi réellement? Est-ce que ma foi est des piécettes jaunes? Où est-ce que ma foi est vraiment centrale? Merci Seigneur parce que tu ne veux pas nous juger, nous accabler, mais tu veux nous renouveler face à cette question. Tu veux nous accompagner. Tu veux évidemment le meilleur pour nous et le meilleur, c'est d'être toujours plus près de toi. Seigneur, que tu nous donnes de méditer par rapport à cela, sous ton regard, sous ta grâce, Seigneur. Et tu vois que... En théorie, on est fantastique. Et en obéissance, ben, on a beaucoup plus de peine. Ben, Seigneur, aide-nous à caler ce que l'on connaît avec ce que l'on doit faire. Amen.